radio de la paix, la voix de la diversité.
Commencer chaque journée avec un cœur reconnaissant et une détermination sans faille, c'est le leitmotiv qui fonde notre engagement à vous offrir des moments particulièrement intéressants, auditeurs et auditrices de Radio de la Paix. Soyez les bienvenus à votre lucarne qui met l'accent sur l'actualité dans nos belles régions ivoiriennes. Bonjour et installez-vous confortablement, nous démarrons maintenant.
Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.
Aujourd'hui, nous faisons un récapitulatif des festivités des 400 ans du royaume de Bouna. C'est au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bounkani. Jérôme Kouassi, notre correspondant régional, y a pris part et revient dans son reportage sur les faits marquants de l'événement.
Radio de la paix.
Anciennement, la région de Bouna était essentiellement peuplée de lorons voltaïques arrivés il y a plus de 2000 ans. Avant la dynastie de Bounkani, les lorons ancêtres des actuels Koulango étaient organisés en petites chefferies détenues par Aingré, l'oncle de Bounkani. Né vers 1583, Bounkani crée une armée avec ses frères lorons qu'il baptise Koulango, ce qui signifie « ceux qui n'ont pas peur de la mort ». Il accède au trône en 1620 en détrônant son oncle Aingré et fonde le royaume de Bouna, le premier royaume à pouvoir centraliser dans les frontières de l'ancienne Côte d'Ivoire. En 2024, le royaume de Bouna a 404 ans. La célébration des 4 centenaires du royaume a été couplée de l'inauguration du nouveau palais royal. Dans ce reportage, nous saurons la motivation de la construction du somptueux palais royal de Bouna. Nous visiterons les expositions du village des 400 ans et en particulier un stand d'une association qui s'intéresse à l'écriture des langues du terroir. Ce reportage vous est proposé par Jérôme Kouassi Krou de Bouna, Radio de la Paix. Le roi Bounkani, comme le roi qui le succède, accueille les migrants malinqués, Lobi et Brifon, citoyens qu'il perçoit vite comme des acteurs du développement du vaste royaume situé entre la Koumoué et la Volta Noire, nous apprend ce doyen versé dans l'histoire du royaume.
Ouattara Kiamborota Lugosina, porte-parole de Sa Majesté Ngebulima, 31e souverain du royaume de Bouna. Ceux-là même qui sont les fondateurs de ce royaume-là, ils avaient besoin de l'apport notamment de la communauté malinké dont les pratiques religieuses étaient l'islam. Donc ces différents souverains-là avaient besoin de ces guides religieux-là pour les accompagner dans leur règne. Et après le passage de Samori, l'étendue du territoire a fait qu'il avait besoin de peuplement, que d'autres peuples viennent se mettre à notre disposition pour combler ce vide-là. Donc notamment on assistait au 19e siècle à l'arrivée de la communauté Lobi, donc tout le monde s'intègre facilement.
Institué en triumvirat, la succession au trône s'est faite en alternance par famille entre trois quartiers de Bouna, Gago Fesso, Piawarso et Kunga Fesso. Cet illustre royaume était géré sans un palais royal fixe. L'idée de construction d'un palais digne de ce royaume germe du 30e souverain Girakoron II qui a fait en sorte que le peuple s'approprie le palais par la contribution de tous à sa construction. Une version que nous révèle le porte-parole du roi.
Chaque famille qui accédait au trône se retrouvait pour trouver un pied à terre pour le chef. Et cela servait de palais et en même temps de résidence. Ses bureaux, ses résidences. Donc le 30e souverain arrivé au trône a dit qu'il n'était pas bon qu'on puisse à chaque fois se retrouver dans les différents quartiers lignages pour les questions de royauté, de bureaux et de palais. Donc il fallait mettre sur pied un palais digne de ce nom où tous les souverains allaient se retrouver. C'est ainsi qu'il a convié les population afin que à chaque récolte et après les ventes de leurs produits des champs, les anakats, et chaque village puisse au moins venir déposer 50 000 pour lancer les bases de cette construction-là. Donc en 2010 déjà, l'ex-président, le président Laurent Gbagbo posait la première pierre et l'œuvre a démarré ainsi.
Adama Kunga du service de communication du roi présente les compartiments du palais et les services dédiés.
Là nous sommes au niveau du bâtiment administratif du palais qui est composé d'un musée, d'une bibliothèque et vous avez une grande salle d'une capacité assise de 500 places, une petite salle de réunion où le roi, entouré des dignitaires du royaume, réfléchit sur les sujets brûlants, les sujets importants du royaume. Mais également, vous avez un salon VIP où Majesté reçoit ses invités de marque, un musée où on peut découvrir ce que nous avons de cher, donc notre patrimoine culturel, les différentes communautés que sont la communauté Koulango autochtone qui a reçu sur ses terres les différentes communautés que sont les communautés Malinké, la communauté Lobi et autres communautés venues de la sous-région pour rendre dynamique l'économie de la région.
Quant à Lucien Ouattara, porte-parole attitré de la Cour royale, il décrit dans les moindres détails la construction de cet impressionnant palais bâti sur le modèle du tabouret traditionnel Koulango de Bouna.
La particularité, c'est que c'est réalisé avec du matériel moderne, mais qui obéit au plan traditionnel. Ça veut dire que, vu de loin, quand vous le voyez, c'est nos tabourets traditionnels qu'on oppose. Ça veut dire qu'on colle les bases et les faces sont de gauche et de droite. Et puis maintenant, le parasol du roi représente la toiture au sein, au milieu même de ces deux tabourets que nous avons joints. Donc voici ce schéma que nous avons pu trouver qui fait aujourd'hui le bonheur de nos populations.
À l'organisation des festivités marquant la célébration des 4 centenaires, soit 400 ans d'existence, et placée sous le haut patronage du chef de l'État, toutes les communautés sans exception sont impliquées. La participation de la communauté foulafone ici justifiée au lieu des manifestations où se succèdent danses et allocutions.
Barry Seydou, je suis secrétaire adjoint de l'Union de Peuples du Bunkane. Ici, nous sommes intégrés. Donc, nous devons soutenir la communauté autochtone pour célébrer notre fête. Parce que quand on parle de 400 ans de Bunkane, c'est pour nous tous.
La République de Côte d'Ivoire était représentée au plus haut sommet de l'État par le vice-président de la République, Thiemoko Mielekone, qui résume au pupitre l'héroïsme de ceux qui ont façonné la glorieuse histoire du royaume.
Ce royaume, véritable creuset de culture, de spiritualité et riche d'une organisation sociale exemplaire, a su traverser les épreuves du temps tout en préservant ses valeurs fondamentales. Cet anniversaire nous offre donc une belle occasion à saisir pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, par leur vision et leur dévouement, ont façonné l'histoire glorieuse du royaume de Bouna.
Direction le village des 400 ans. À l'entrée, la danse mythique, le Logosim Naga, exécutée avec brio, vous accueille. L'histoire de l'origine atypique de cette danse ancestrale avec le président des jeunes de Dropo.
Ouattara Nyantou, président de la jeunesse communale de Doropo, en même temps responsable de la danse Lusunara de Doropo. La signification de Lusunara, ça veut dire faut savoir emboîter les pas. Un jour, le roi de Bouna, il y a très très longtemps, qui est en tournée pour visiter ses terres, et un jour il est quitté à Doropo, il a vu ses parents sortir de la grotte, commencer à danser Lusunara. Donc quand il les a suivis comme ça, ils ont eu peur, ils ont fui et ils sont retournés dans la grotte. Et c'est comme ça, le roi est retourné à Bouna, venu bien s'apprêter. En partant, ils ont envoyé de la farine, du sel et autres vivres, du miel. Arrivé là-bas aussi à Doropo, il a essayé de causer à eux et il les a donné, ils ont mangé, ils sont bien rassasiés et effectivement, ils ont dansé devant lui au dehors et c'est comme ça, le roi aussi est venu à la danse à Bouna.
Au premier stand, à côté d'une fileuse traditionnelle de coton, Yen Gemi, la lauréate du concours culinaire, arbore un large sourire. Elle expose son plat de la victoire composé de la sauce pistache à la pintade avec du kabato et du dolo traditionnel de Kapalo. La calebasse très propre à côté nous indique qu'elle est une femme lobby reconnue par la propriété de ses ustensiles de cuisine.
Amy, je suis une fille lobby. J'ai appris ça à ma maman. Avant, les parents préparent la sauce pistache et de la pintade. Et la calebasse aussi, on a bien lavé propre. C'est ça, on donne l'eau à les étrangers. Quand étranger vient chez toi, tu dois lui donner l'eau et une propre calebasse. Quand il voit la calebasse, il a envie de boire. Donc c'est ça qui nous a fait gagner. On n'a pas mis qu'une magie. Parce qu'on dit on n'est qu'à faire ancien temps.
Non loin de là, le stand d'exposition des habits Koulango à base de coton filé gros grain, coloré et tissé des mains des tisserands locaux. Une jeune fille est la tenancière des lieux.
Kamara Aramata, je vends les tenues traditionnelles du Bunkani. On peut faire tous les modèles avec ces tissés dans les villages aux alentours de Bouna. C'est fait avec la main. C'est cousu aussi avec des aiguilles. On peut faire pour les hommes, on peut faire pour les femmes, on peut faire pour les enfants, on peut faire pour les jeunes filles. Les jeunes filles en robe, robes, les hommes, des guerriers en petits manches avec des chapeaux.
On voit que pour les guerriers, le bas est évasé. Pourquoi?
C'est pour permettre aux guerriers de pouvoir courir. S'il y a, quelque chose, il peut courir, il peut bien lancer ses pieds. C'est pour ne pas qu'il puisse tomber. Un guerrier est toujours un guerrier.
Ce que nous voyons là peut coûter combien?
Pour les guerriers là même là, de 30 à 50 000.
Est-ce que les gens viennent pour acheter?
Les gens aiment ça bien, surtout les étrangers, c'est leur première fois de voir ça. En tout cas, quand tu portes ça en dehors du Bunkani, on sait que tu es venu au Bunkani. Parce que c'est au Bunkani seulement ça se trouve. Donc quand tu es étranger là, quand tu viens, ça sort de l'ordinaire quoi. Mais étant en dehors du Bunkani, quand quelqu'un te voit porter, il sait que tu es venu dans le Bunkani.
Merci beaucoup madame. Juste à droite, le président des tradis praticiens du Bunkani expose sur la pharmacopée du royaume.
Buna Mamoudou. Voilà, j'ai le médicament.
Pourquoi vous avez décidé de présenter ça là aujourd'hui?
C'est le médicament avant, c'est ça, nous on connaît. C'est ça, on prend pour se soigner bien.
Est-ce que vous êtes reconnu par l'État de Côte d'Ivoire?
On est reconnu seulement sur le président côté Boukani. Je suis le président. Voilà, parfois, quand il y a la cérémonie, seulement je venais présenter.
Beaucoup. Alors, docteur, merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Nous sommes ici au stand d'exposition de multiples produits dérivés de l'arbre à karité.
Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Yao Siata Ouattara. Je suis la PCA de la société coopérative Scopcea Prococab. Production, collecte et transformation du karité et ses dérivés du Boukani. Avant, c'était dans le Canari qu'on mettait le beurre de karité qui était consommé toute l'année. On mettait dans les mains. On prenait pour faire les grillades. On prenait aussi pour soigner les enfants, les plaies. Quand femme accouche, il faut aussi faire le savon. Le savon Biani que vous voyez, que je présente aujourd'hui, c'était le meilleur savon dans les foyers. Aujourd'hui, nous avons modernisé. Et le Biani qui est là, nous avons modernisé le produit d'entretien corporel qui est les déchets du karité, comme le gommage, comme les fonds de teint, comme aussi les produits pour pouvoir faire tomber les masques de grossesse, qui sont aussi les tutos du karité. Tous ces produits aujourd'hui sont modernisés et transportables, consommables 12 mois dans l'année.
L'un des défis du moment du royaume est le délaissement des patronymes Kwango au profit du nom Ouattara, des Dioula du Kong et la phagocytose de la langue par le Malinké. Un défi que tente de relever l'un des princes du royaume, un fils du roi Girakorin II à travers l'écriture de la langue Kulango et d'autres langues du terroir.
Ouattara Kumbondou, président de l'association pour la tradition des langues du Bunkani. Notre objectif en créant cette association, en la mettant en place, c'est de faire la promotion de tout ce qui compte dans le Bunkani. Par mariage, par toutes sortes de brassages, nos langues se perdent et nos enfants aujourd'hui même ne parlent pas nos langues. Donc nous avons estimé que pour pérenniser nos langues et notre culture, il était important que nous puissions apporter notre contribution au travail d'un instrument comme celui-là. La traduction dans une langue, c'est beaucoup de choses. C'est des études de linguistique, c'est des études de sociologie, c'est des études phonologiques pour voir qu'est-ce qu'on peut se dire dans une langue, qu'est-ce qui peut ne pas se dire, que tel son existe. Donc toutes ces études-là sont faites pour finalement arriver à mettre sur pied une sorte de syllabaire dans le processus. Et puis ensuite, à partir du syllabaire, on peut commencer maintenant à écrire la langue. Rappelez-vous également que l'État de Côte d'Ivoire a décidé qu'un certain nombre de langues soient enseignées même dans la Côte d'Ivoire. Ça a été dit, mais quand on va rendre cette décision opérationnelle, combien de langues seront prêtes à avoir à produire des enseignants qui non seulement parlent la langue, mais sont capables de transmettre la langue? Ils ont besoin d'être alphabétisés, éduqués même dans ces langues-là. Donc nous avons un gros coup à jouer au travers de cette association-là.
Déjà au mois de septembre 2024, selon les estimations de ICR, le royaume enregistre plus de 34 000 Burkinabés réfugiés et demandeurs d'asile au vu de l'insécurité au Sahel, une composante dont il faut en tenir compte désormais selon le prince.
On a toujours vécu avec les peuls, mais aujourd'hui, avec la situation qu'on vit au Burkina, que nos frères vivent au Burkina, on sait qu'il y a une très grande communauté peul ici à Bouna désormais, très importante. Il suffit de prendre les soirées, vous allez voir les petits, les jeunes gens, les enfants, les adolescents là, qui se promènent dans les rues en masse. Vous allez comprendre que la communauté peul aujourd'hui est devenue très importante dans la ville de Bouna. Au lieu de le voir comme un problème, nous on le voit comme une opportunité sur le plan sociologique. Donc sur cette base là, on s'est dit combien de gens comprennent le peul, combien de gens parle le peul, comment on peut vulgariser le peul et comment est-ce qu'on peut apporter des messages à la communauté peul par exemple. Donc toutes ces choses-là font partie des centres d'intérêt pour nous en tant qu'association. Ils ont participé à la fête, ça veut dire que les choses sont à l'inclusion.
Enfin, l'appel du roi Ngaïblima aux Ivoiriens avec son porte-parole Lohsina Ouattara.
L'appel que Majesté leur lance et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, c'est que longtemps Bouna a été taxé de villes où, quand on affecte un fonctionnaire, il se dit qu'il vient en punition. Mais aujourd'hui, ceux qui nous ont visités constatent qu'il y a une autre réalité. C'est que Bouna, il y a beaucoup à découvrir. Donc, tous ceux qui sont dans le reste de la Côte d'Ivoire peuvent venir à nous et venir découvrir le royaume de Bouna et certains lieux touristiques. Et cela est déjà bon. Maintenant, appeler les populations qui sont avec nous ici pour ce qu'il est tenu de voir aujourd'hui, leur dire que, vous voyez, quand on est ensemble, quand on se donne main à la main, on arrive à faire beaucoup de choses. Que cet esprit-là demeure à Bouna et que les Malinké, les Lobi, les Koulango, ensemble, nous puissions bâtir une région de paix, une région de prospérité.
Il faut retenir que la célébration des 400 ans du royaume de Bouna a été couplée de l'inauguration du nouveau palais royal sous le règne du 31e roi du Bunkani, Sa Majesté Ngabliman, de nom à l'état civil Ouattara Gibokro, au trône depuis le 18 octobre 2018, suite au décès de Grakroni II. Ce reportage vous a été proposé par Jérôme Kwasi Kru de Bouna, Radio de la Paix.
Radio de la Paix.
Merci Jérôme pour cette incursion au cœur des 400 ans du royaume de Bouna. Je rappelle pour nos auditeurs et auditrices que ce reportage est à retrouver sur notre site internet www.radiodelapaix.ci. Après Jérôme, je reçois maintenant au téléphone l'Augustine Ouattara, porte-parole du roi de Bouna, pour un entretien bilan des festivités des 400 ans du royaume de Bouna. L'Augustine Ouattara, bonjour et bienvenue à Panorama des Régions sur Radio de la Paix.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le porte-parole du 31e souverain du royaume de Bouna, Sa Majesté Ngabliman. Et avec vous, nous allons revisiter les temps forts de la célébration des 400 ans du royaume de Bouna.
Merci beaucoup, il n'y a pas de souci.
Notre correspondant Jérôme Kwasi a produit un reportage que nous venons d'écouter. Beaucoup de questions ont été abordées, notamment la naissance du royaume, la construction du palais royal et bien plus. Déjà, pouvons-nous connaître l'histoire du plus vieux royaume de Côte d'Ivoire ?
Pour revenir à l'histoire du plus vieux royaume de Côte d'Ivoire, il faut dire que la région aujourd'hui porte le nom de celui-là même qui en est le fondateur. Donc, autour de 1620, Boukani fut le fondateur de ce royaume-là. En 2020, il était évident que nous puissions célébrer les 400 ans de ce royaume-là et lui rendre hommage. Et quand on sait que le pouvoir de la femme, c'est 4, le pouvoir de l'homme, c'est 3, donc il fallait que, avec Majesté, en concertation avec la notabilité, voire avec les anciens, pour que nous puissions rendre plus 4 ans sur l'an 2020, pour pouvoir célébrer ce royaume-là et rendre hommage à la mère de ce fondateur-là qui est Boukani, dont la mère est Mantou.
Comment le royaume est-il né? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut savoir un peu?
Ok, il faut dire que nous sommes une communauté à l'origine appelée Loma, et venue directement de Soni, village actuel avec la frontière qui est l'ancien Soudan français. Et aujourd'hui, cette ville-là se trouve à la frontière Mali-Sénégal, appelée Soni. La communauté est venue de là-bas avec pour ancêtre Kodo, dont l'épouse avait pour nom Mikage. Donc, arrivé sur le site qui a porté le nom Boukani, il faut te dire que cette communauté est restée là-bas jusqu'à ce qu'il y ait la naissance de Boukani. Mais avant, on ne parlait pas de royauté, on parlait de chefferie de terre. Donc, en langue, on dit Goro. Donc, quand vous allez arriver, quand on dit les Goro, ça veut dire que c'est ceux-là qui sont les chefs de terre. Et c'est à la suite de la naissance de Boukani, il s'est relevé un enfant belliqueux, turbulent, choyé par la communauté. Et c'est lui qui va maintenant, à partir de 17 ans, va avoir cet objectif-là de conquérir des espaces et asseoir un royaume. C'est à partir de là, il va qualifier tous les volontaires de la communauté qui pouvaient l'accompagner, aller faire cette conquête des terres-là, Koulango, dont en langue on dit Wama Kwalongo. Donc c'est ce qui a donné le nom Koulango. Et à partir de cet instant-là, il va faire maintenant de la conquête des terres un combat pour étendre un peu son pouvoir et le rayonnement de son royaume.
Le royaume de Bouna est aujourd'hui dirigé par Sa Majesté Ngabliman, 31e souverain.
C'est ça.
Depuis quand est-il roi et comment l'est-il devenu?
Il a été à la tête de ce royaume-là vers la fin de l'année 2018. Et il a accédé au trône, notamment en novembre 2018. Mais il faut te dire que nous avons 4 grandes familles pour ce qui concerne le pouvoir royal à Bouna, qui sont les 4 piliers Maintenant, les trois sont ceux-là qui se succèdent au trône. Et le quatrième, lui, n'assure que la vacance de pouvoir pour 3 mois. Donc, l'actuel souverain est du lignage Kunga. Mais avant d'accéder au trône, il faut dire qu'il sollicite d'abord la gestion des villages. Donc, il a pratiquement passé une vingtaine d'années à diriger les villages. Et puis, vers la fin 2018, maintenant, il a accédé au pouvoir central pour être le roi de Bouna.
Et c'est sous son règne qu'ont été célébrés les 400 ans du royaume, couplé à l'inauguration du palais royal. De ces festivités, quel bilan général tirez-vous?
Le bilan qu'on peut tirer, il faut dire que ça a permis au moins d'avoir une visibilité par rapport à la région. La région qui est, pour ce que nous savons de l'actualité, qui est toujours taxée de zones rouges. Et cette activité-là a permis au moins d'élever un peu ce manque de confiance que les gens ont par rapport à la région. Et ça a permis aussi aux filles et aux fils de cette région-là de se retrouver autour de ces valeurs culturelles-là pour célébrer la région. Et ce qui a permis aussi de dire que c'est vrai, on a eu 400 ans, 400 ans d'histoire, 400 ans de passé, mais qu'est-ce qui a été l'acquis? L'acquis, je pense que c'est la cohésion. L'acquis, c'est ce joyau que nous avons inauguré, qui est le palais même du royaume.
Quand est-ce que s'est déroulée la fête des 400 ans et combien de temps cette fête a-t-elle duré?
La fête a duré pratiquement 3 jours. Ça veut dire que le 28 novembre, pour recevoir les délégations, le 29 pour entrer dans l'activité de la célébration des mannes, les consulter et faire tout ce qui a valeur, visiter nos sites traditionnels et implorer les mannes des ancêtres, en quelque sorte rentrer dans le bois sacré. Le 30, qui était le samedi, a été la partie officielle avec les autorités qui sont venues, ça veut dire que le vice-président, accompagné d'un certain nombre de ministres, et maintenant les festivités même, pour tout ce qui est nos voisins, nos pays, nos invités des pays frontaliers, la royauté, la chambre des rois au niveau de la Côte d'Ivoire, toutes ces personnalités-là sont arrivées le samedi, et ça a été la partie officielle. Et après les discours, il s'est suivi maintenant la coupure du ruban pour procéder à l'inauguration même du palais. Voilà, en 3 jours, ce qui a été donné de voir au moins dans la région du Boukani.
Justement, nous allons entrer de manière spécifique dans les festivités avec l'inauguration du palais dont vous venez de parler. Au bout de 4 siècles d'existence, devons-nous comprendre que c'est maintenant que la royauté dispose d'un palais ou existait-il déjà un palais?
Oui, il existait des palais, comme je l'ai dit. Nous avons 3 piliers qui se succèdent à la tête du trône. Mmh. Et chaque grande famille s'accordait les moyens pour trouver une résidence, pour trouver un bureau pour servir de palais dans son quartier. Ça veut dire que si c'est le quartier X qui accède au trône, donc il se devait aux filles et aux fils de ce quartier-là, accompagnés de nos cadres et des autres membres des communautés, d'asseoir une résidence pour le souverain qui est arrivé. Donc, lorsqu'il est arrivé au tour du 30e souverain, lui qui fut un ancien administrateur des postes et télécommunications, il a dit pour donner un poids, pour donner encore une certaine valeur à cette royauté-là, il fallait que les filles et les fils réfléchissent pour trouver un palais unique, un palais central qui allait servir aux autres chefs. Donc, c'est ce qui a été donné de voir. Et à ce moment-là, il a fait appel aux enfants de la région et pour qu'on puisse mettre en place ce projet-là. À ce moment-là, il a demandé au village qui, après chaque récolte de leurs produits agricoles, que chaque village puisse contribuer à hauteur de 50 000. Voilà comment il y a eu les bases de la mise en place de ce palais. Et lorsqu'il a commencé l'activité, quelques années plus tard, ça veut dire qu'en 2018, il nous a quittés. Et le 31e a dit que c'est une œuvre louable et qu'il fallait se donner les moyens pour terminer ce projet-là. Lui, il en a fait la finition et nous nous sommes fixés une date maintenant pour l'inauguration. Voilà comment il y a eu ce côté-là de la mise en place de ce palais-là.
Et ce palais-là, qu'est-ce qui en fait la particularité?
La particularité, d'abord, c'est d'abord ce à quoi on revient pour dire que, comme vous l'avez souligné, 400 ans après, c'est un joyau qui nous est donné de voir. Il est constitué maintenant d'un bureau, pour majesté même, de 2 salles de réunion, ça veut dire qu'une grande qui peut accueillir 500 personnes, et une petite salle où c'est quand c'est un niveau restreint, les décideurs puissent se retrouver là-bas pour prendre les grandes décisions. Il y a un musée que ce palais-là comporte pour permettre aux communautés vivant dans cette partie de la Côte d'Ivoire là, de pouvoir y mettre tout ce qu'on a comme objet culturel, tout ce qui fait référence à notre histoire et que les jeunes générations puissent découvrir quelque chose de ce passé-là du royaume dans ce musée. C'est aussi avec une bibliothèque, parce que c'est avec cette lecture au contact de ces documents-là que les gens vont aussi apprendre beaucoup de l'histoire de cette région-là. Et puis, à la forme architecturale même du palais, ça veut dire que, qui symbolise, ça veut dire que le tabouret traditionnel qu'on y retrouve dans le plan, le parasol même de majesté qui forme la toiture conique que nous avons, ça veut dire que c'est dépend aussi de l'architecture traditionnelle que nous avons essayé de mettre de façon moderne pour montrer aux yeux des gens que, au moins, 400 ans après, voilà quelque chose de potable qu'on peut offrir à la communauté.
Donc on comprend que ce palais, avec sa nouvelle allure, est beaucoup plus représentatif de la culture Koulango.
Oui, il est beaucoup plus représentatif de la culture Koulango et de l'ensemble des peuples qui vivent avec nous.
À part le palais, qu'est-ce qui a permis aux visiteurs de découvrir davantage le patrimoine du royaume du Bounkani?
Bon, à part le palais qu'on a dit, c'est la première royauté. Quand on prend les documents, on sait que c'est déjà le premier royaume quand on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des choses que les visiteurs n'entendaient pas parler, mais qu'ils ont pu découvrir sur terrain. On a une mosquée de type soudanais, comme dans l'ensemble du nord du pays. Nous avons le caveau des soldats tués par Samori, qui se trouve à 5 km de Bouna, sur l'axe Bouna-Dropo, précisément dans le village de Bromakoté. Vous avez aussi les pierres de Bagudo, les grottes de Tingo du côté de Dropo, et les mêmes grottes aussi qu'on va trouver à Piaï dans le sud. Et vous avez Bouna, c'est un terrain qui est plat et une ville vraiment qui est paisible. Donc je disais que c'est ce qu'on attendait de l'ensemble des communautés sur ce sol-là, de garder cette hospitalité légendaire-là pour que c'est ceux qui nous visitent se retournent avec vraiment la joie de découvrir cette cité-là, qui est vraiment une belle cité.
Jérôme Kouassi, notre reporter, a fait cas dans son élément d'exposition du village des 400 ans. Que montraient ces expositions? Qu'est-ce qu'elles mettaient en avant?
Bon, l'exposition des villages des 400 ans mettait en avant la cuisine qu'on pouvait trouver, tout ce qu'on a comme mets dans la région. Nous avons aussi nos tenues traditionnelles faites avec nos artisans qui travaillaient le coton de façon artisanale, qu'on utilisait pour faire nos tenues traditionnelles. Donc on a exposé sur ça, on a exposé sur tout ce qui est produit qu'on pouvait trouver dans cette région-là, produits agricoles notamment. L'igname la plus prisée en Côte d'Ivoire, c'est l'igname Kona. Mmh. Et l'igname Kona, sa capitale même, c'est Bouna. Et compte tenu de sa saveur, en langue on dit « Pono », il faut porter à la bouche. Donc, transcrit Kona. Donc, ça montre déjà que c'est des trucs qu'on pouvait trouver. Il y a aussi le mil, le maïs et le sorgho que nous produisons beaucoup. Et ceux qui connaissent Abidjan, vous savez qu'ils sont friands du Kapalo. Mais sa base même, c'est le mil qu'on va trouver aussi dans cette région-là.
Pour la pérennisation de l'histoire et de la culture du royaume de Bouna, il y a un stand que tenait une association qui s'intéresse à l'écriture des langues du terroir. Que pouvez-vous nous dire là-dessus?
Oui, c'est par rapport au fait qu'on a compris maintenant que nos enfants abandonnent plus les langues maternelles. Donc, c'est trouver une structure locale qui œuvre pour la pérennisation des langues et qui parle déjà de la transcription même de cette langue-là qu'il faut enseigner aux enfants pour garder les langues maternelles. Et cette structure-là a beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour le maintien et du fait même que nos langues-là soient beaucoup parlées. Comme on sait qu'avec l'État de Côte d'Ivoire, il y a un projet d'enseigner nos langues dans nos écoles, donc ils ont mieux fait de prendre le taureau par les cornes et travailler en ce sens-là. Et ce stand-là a été beaucoup visité, puisqu'ils ont mis beaucoup les enfants à contribution et leur permettre même de garder le contact avec la langue maternelle.
Venons-en au résultat de la célébration des 400 ans du royaume de Buna. Pensez-vous que ces festivités ont contribué au rayonnement du royaume et de sa culture au niveau international?
Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ce que nous avons constaté comme retour par rapport à tous ceux qui nous ont visités et ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, tout ce qu'ils ont nous apporté comme retour nous dit que même si il n'y avait pas eu l'idée de célébrer les 400 ans, il aurait fallu au moins avoir une initiative palliative à cela. Je pense que ça a permis d'avoir un autre regard sur la région. Ça a permis de découvrir encore plus cette région-là. Et je pense que les années à venir, les retombées encore seront plus productives que ce que nous sommes en train d'assister en ce moment.
Logosino Ouattara, en tant que porte-parole du roi, quels sont vos souhaits ou vos priorités pour les prochaines étapes dans le développement du royaume de Buna?
Bon, je pense que ce qui lui est donné de voix, c'est de voir vraiment pouvoir renforcer cette cohésion que nous connaissons déjà au niveau de la région et appeler les filles et les fils de cette région-là à s'unir davantage pour que nous puissions vivre encore d'autres événements plus que ce que nous avons vécu. C'est vrai, il y a eu les 400 ans, mais il faut que nous arrivions à mettre encore en place une activité culturelle qui va nous permettre encore d'être visités annuellement. Et je pense que ça va nous aider à renforcer la paix, à renforcer la cohésion et l'unité dans cette région-là.
Enfin, Logosino Ouattara, quels sont vos vœux pour la Côte d'Ivoire en cette année électorale?
Je pense que, en ma qualité de porte-parole de Sa Majesté, c'est d'abord prier, puisque nous sommes rentrés dans une année électorale, que ces élections-là puissent se dérouler dans de bonnes conditions et que les filles et les fils de ce pays-là puissent se retrouver pour célébrer le développement et non la violence. Je pense que tous ceux qui sont en souffrance, que Dieu leur accorde la santé, tous ceux qui sont à la recherche de travail, que le Seigneur permette à nos gouvernements de créer plus d'activités et que ceux-là puissent aussi avoir de quoi se maintenir. Vous savez, l'oisiveté entraîne beaucoup de choses et que ces jeunes-là puissent se caser quelque part et parler de développement et non de violence. Donc, paix pour la Côte d'Ivoire, paix pour le Boukani et paix aussi pour l'ensemble de ceux-là même qui ne sont pas des Ivoiriens, mais qui ont aimé notre pays et qui vivent avec nous ici.
Logosino Ouattara, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans Panorama des Régions.
Merci à vous, mais il faut dire que la radio de la paix a joué beaucoup de rôle dans notre région lorsqu'il y a eu la crise. Par moments aussi, il est donné qu'il y a des pannes techniques qui font qu'il y a des interruptions. Que vous ayez un regard pour pallier cela, puisque c'est une radio qui est beaucoup écoutée dans le Boukani.
C'est entendu. Je pense que votre message est passé sous nos antennes. Les personnes indiquées, les services compétents feront le nécessaire pour que la situation soit rétablie dans le Boukani. Merci encore et je rappelle que vous êtes le porte-parole du 31e souverain, Sa Majesté Niguebliman, roi de Buna.
Merci.
Ok, et excellente journée à vous.
Amen.
Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
C'est ici que prend fin Panorama des Régions ce jour. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, toujours en quête de ce qui fait l'actualité dans nos belles régions. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Radio de la Paix.
Panorama des Régions. Panorama des Régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région. We'll be right back.